Eh, faudrait voir la tête aux yeux avec le principe de dissonance cognitive, hein. Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté.
Dissonance cognitive. L'émission rock metal alternative. Sur Radio Cause Commune, 93.1 FM.
Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive. Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock metal alternative sur Radio Cause Commune 93.1 FM Paris. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Douka. Bonsoir messieurs.
Et bonsoir.
Salut.
Bonsoir, bonsoir. Enchanté, enchanté, enchanté. Alors, comme on a pour habitude de faire première et dernière question habituelle, la première, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Douka, c'est qui et c'est quoi? À vous.
Douka, c'est un groupe de modern metal. Voilà, on vient de Lyon, on existe depuis environ 2016. Voilà, on fait du metal influencé Meshuga, Gojira, Hypnose, voilà, After the Burial, dans les grandes lignes. Et voilà pour la présentation générale.
Très bien, très bien. Qui es-tu pour nos chers auditeurs?
Je suis Julien, le chanteur. Bonjour.
Et de qui es-tu accompagné?
De Maxime, le batteur.
Enchanté, messieurs, enchanté.
Enchanté, enchanté. Enchanté. Et si je peux me permettre, très beau jingle. Voilà, c'est la première fois que je l'entends.
Oh, merci.
Magnifique.
Merci, merci. C'est fait avec amour par mes soins. Alors je vous
Mais
en
ça
remercie.
Se sent. Ça se sent. C'est beau.
Ok, alors en faisant mes recherches, je suis tombé sur le podcast de What's the Story, que yes. Je vous invite d'ailleurs à écouter, chers auditeurs de Dissonance Cognitive, où Julien, tu reviens un peu plus en détail sur le concept du nom Douka, qui est tiré du sanskrit et qui veut dire, pour résumer, hein, qui ne tourne pas rond. Mais sur le grand site de toutes les vérités non critiquables et éternelles qu'est Wikipédia, Il est écrit une phrase que j'ai beaucoup appréciée et qui colle parfaitement à votre musique, je la cite. On pourrait donc la traduire par « qui ne tourne pas rond », désagréable ou insatisfaisant. Mais ce mot est généralement traduit par « souffrance ». Si une souffrance est effectivement due à quelque chose qui ne tourne pas rond, résumer Douka au mot « souffrance » est réducteur. Donc, résumer votre musique au simple ressenti de la souffrance est clairement réducteur, à mon point de vue. Vous avez une putain de versatilité au sein de votre zik. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec un peu plus de profondeur le rapport entre le mot Douka, le nom de votre groupe, et votre musique, s'il vous plaît?
Ouais, alors effectivement, c'est vrai que j'étais jamais allé plus loin que ce que tu as dit avant, mais la suite de la définition est plutôt... ouais, précise bien le rapport avec la musique. Nous, dans l'esprit, comme je le disais avant, on a deux facettes. On a une partie un peu énervée, bourrin, avec des riffs, voilà, comme je disais, Meshuga, Gojira, ce genre de choses. Et puis on a aussi une partie beaucoup plus calme, samplée, qui va se rapprocher davantage de post-rock, post-black. Je ne peux même pas dire post-black, mais bon, voilà, plus Hypnose, ce genre de choses. Et vis-à-vis du nom, donc Douka, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui ne tourne pas rond, mais ça fait partie d'un concept un peu plus global, donc dans le bouddhisme, qui s'appelle les quatre nobles vérités. Et ces quatre nobles vérités du bouddhisme, ben voilà, pour faire simple, en gros, c'est partir du principe qu'il existe quelque chose d'insatisfaisant, pour ensuite faire un chemin sur identifier les causes de cette souffrance, puis éventuellement ensuite les régler et atteindre ce qu'on va caricaturer de façon très concise, le nirvana, quoi. Donc en gros, l'esprit, c'est de partir de quelque chose qui est totalement négatif, d'où le concept de souffrance, mais pour arriver à quelque chose de finalement très positif. Et c'est un peu ce côté paradoxal, en gros, voilà, qui était intéressant pour nous à la base et qu'on a essayé après, du coup, de retranscrire dans la musique par l'opposition de ces passages bourrins et de ces passages calmes. Voilà.
Très bien, très bien. Bien synthétisé. Est-ce que vous voyez un parallèle typiquement avec une œuvre comme le Gorin no Sho de Musashi Miyamoto?
Pas pour ma part, voilà.
ne se prononce pas.
On aimerait avoir la culture. Non, je crois que moi perso, j'ai pas la ref.
D'accord.
Mais on a le droit des jokers comme ça dans l'interview,
oui,
si
oui,
genre,
oui.
C'est pas faux comme dans Kaamelott. On peut ça ou pas?
Ouais, tu peux, ça sera noté. Okay. T'en as droit. Hein. T'as trois.
C'est pas faux.
Ok.
je veux bien que tu me redonnes le nom pour plus tard. Voilà, pour ma culture personnelle, j'irai
avec
voir ça.
Grand plaisir, on échangera ça. Du coup, en partant de ce principe-là, sur ces quatre vérités, sur ce principe donc de partir d'une négativité profonde et d'en faire quelque chose de constructif, pour synthétiser évidemment, c'est quoi le monde parfait selon Dukkha ?
Le monde parfait selon Dukkha ? Waouh, c'est.
T'as trois jokers, il a dit.
Ah, j'en ai déjà cramé un. Hein.
Putain, c'est pas faux. Non, je déconne. Moi, j'ai peut-être ma vision, mais après, je sais pas si on la partage tous dans tous les détails. Mais déjà, un monde peut-être où les gens sont plus ouverts les uns vers les autres, je pense. Un peu moins nombrilistes. Où il y a moins de guéguerre, d'égoïsme, de solidarité, je pense que c'est un peu la base de relations saines, voilà.
Ok, vous prenez pas forcément l'aspect nihiliste de la force, quoi, en disant voilà, c'est bon, tout est foutu, flinguez-vous, on n'en parle plus.
Ah bah non, je pense pas que c'est ouais.
Super. Enfin, comme il y avait ce paradoxe que vous exprimiez tout à l'heure, c'était savoir si vous partiez du principe pessimiste ou optimiste de la force, en fait.
Non, en fait, si tu veux, nous, l'esprit, c'est qu'on n'est pas... En tout cas, quand on a... Enfin, en fait, ça dépend à qui tu poses la question ou à quoi. Pour préciser, l'idée, c'est que dans le groupe, le premier album donc, qu'on a sorti, qui s'appelle Legacy, et qui donc raconte cette histoire des quatre nobles vérités, elle est précédée d'un single qui s'appelle Heavenly Defaced God et qui va plus ou moins remettre en question tout ce qui est présenté dans l'album. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que le but, nous, c'est surtout pas d'être moralisateur, c'est pas de vouloir donner des leçons. Et c'est pour ça que le nom de l'album, c'était Legacy, qui veut dire héritage, parce que, comme le dit très bien notre guitariste absent aujourd'hui, Maxime, un héritage, il peut être positif, mais il peut être négatif. C'est surtout ce qu'on en fait après. Et nous, si tu veux, voilà, à un instant T, on va dresser un constat. Maintenant, on n'appelle pas à l'anarchie, on ne dit pas que tout est foutu, on ne dit pas que tout va bien se passer, voilà, on dit aujourd'hui on en est là, avant il s'est passé ça, qui nous a emmené ici, voilà, pour la suite, ça c'est notre héritage, pour la suite, voilà les armes, faites-en ce que vous voulez, mais voilà, c'est plus factuel qu'autre chose, quoi, si tu veux.
Ok, vous lui imposez quand même une grande dimension spirituelle et philosophique, parce qu'il n'y a pas que le nom qui porte ces valeurs-là, il y a aussi votre musique d'un point de vue général, même l'imagerie, on y reviendra un peu plus tard sur l'imagerie. Est-ce que idéalement vous voudriez toucher un maximum de monde à travers ce message-là ? Disons que voilà, vous essayez de propager quelque chose de positif. Maintenant, on va dire entre guillemets, la question elle va être un peu concon, mais est-ce que tout le monde mérite ce message-là ? Ou est-ce qu'il y a une frange de la population qui pourrait être mise de côté à travers ça ? Vous voyez ce que je veux dire un peu par là ? C'est-à-dire que vous essayez d'avoir un message universaliste, enfin universel, total, ou est-ce que vous adressez qu'aux gens qui sont sensibles à ce genre de choses-là ?
Ben, tu vois, l'esprit du si on part du concept de base, de dire voilà, il existe un problème, on réfléchit aux causes du problème, on les travaille ensemble pour les solutionner, ça c'est effectivement quelque chose qu'on peut qualifier d'universaliste et qui peut s'adresser à tout le monde, que tu sois une belle personne ou que tu sois le dernier des enfoirés sur Terre en prison parce que t'as fait je ne sais pas quoi d'immonde. Mais tu vois, l'idée c'est que pour faire un parallèle un peu plus perso, moi, à un moment donné, quand, si tu veux, j'ai écrit certaines de ces paroles, c'est des lectures à un moment donné que j'ai pu faire et qui m'ont aidé à titre personnel. J'avais pas envie de raconter trop ma vie perso dans les paroles, etc. Donc, parce que je voulais pas que ça soit trop personnel, donc on l'a imagé et on en a fait et on a navigué autour de ce message qui moi à un moment donné a pu m'aider à résoudre des choses, et je me dis si demain ça peut aider d'autres personnes dans la même mesure, tant mieux, job is done.
Donc
oui, pour moi ça s'adresse à tout le monde. Après, voilà, c'est effectivement, c'est très imagé. On n'avait pas envie de raconter n'importe quoi. On n'avait pas envie de raconter des choses trop simples non plus. Enfin, moi, perso, j'ai beaucoup de problèmes avec. Enfin, beaucoup de problèmes. J'ai un peu de mal avec. Tu sais, tous ces groupes, t'écoutes, tu fais putain, ça défonce, ça tue. Puis tu veux aller un peu plus loin et tu vas creuser et tu vas regarder un peu s'il y a des concepts et des choses. Tu vas lire les paroles et tu fais oh, my girlfriend broke up with me et tout. Et tu fais putain, fais chier parce que le riff il bute, la prod elle bute, l'imagerie elle défonce. Mais gros, ce que tu racontes, ok, super, c'est personnel, très bien, mais oh, et d'accord, voilà, et après quoi, d'accord. Donc voilà, moi je voulais pas ça, donc c'est pour ça que je voulais pas raconter ma vie, et en même temps je voulais quelque chose qui essaye de parler un peu à. Un peu plus, quoi, je veux dire, dans les, voilà, un peu plus haut de plafond, quoi, si tu veux, dans l'esprit. Donc, c'est c'était, donc voilà, donc oui, c'est un peu. Enfin, oui, ça peut se qualifier d'universaliste, mais. Voilà, pas de problème okay. Là-dessus. Pour le premier album, en tout cas.
Ouais. Pourquoi vous avez une vision qui va différer à l'avenir? Vous essayez d'amener autre chose dans ce nouvel album que vous proposez, Rémanence, là? Est-ce qu'il y a une future. Un petit croustille à nous faire tourner pour l'avenir, peut-être, on sait jamais.
Pour ce qui va sortir après Rémanence, tu veux dire?
Ouais. Est-ce que dans les tuyaux, vous avez une vision un petit peu comme une sorte d'histoire, vous voyez? Vous avez une base, vous avez la continuité, un peu comme la théorie du monomythe ou ce genre de choses-là, vous voyez?
Non, alors je t'avoue qu'on ne s'est pas encore posé sur ces questions-là. On en est plus sur la musique pour l'instant, écrire un peu des riffs, et voilà. On n'a pas encore parlé trop de thématiques. Est-ce qu'on garde, on embraye sur un truc qui a un lien avec les précédents, ou est-ce qu'on se... On fait un truc beau, totalement différent. Voilà, ça, très honnêtement, on n'a pas encore mis le... On n'a pas planché dessus, quoi.
Ok. Alors, avant de se faire une pause musicale, je voudrais aborder le thème des visuels. Alors, niveau visuel, vous mettez clairement un gros coup en termes de qualité. C'est... Je suis pas irréprochable en termes de connaissance de la scène et des clips qui peuvent être faits sur cette scène métal, mais vous faites partie pour moi personnellement de ce qui se fait de plus qualitatif en France, clairement. Et je voulais savoir pourquoi, avec plaisir, c'est sincère. Pourquoi mettre autant d'énergie, et j'imagine évidemment de budget, hein, dans les clips? Est-ce que c'est un besoin d'expression artistique profond, vu que ça va aussi avec le concept de Duka et que c'est assez philosophique et assez profond? Ou est-ce que ça reste aussi un souci pour coller au modèle de consommation moderne de la musique, vous voyez, obligé de sortir un clip, personne n'en a rien à foutre des clips, mais il faut le sortir quand même, du coup tant qu'à faire vous faites un truc qui vous plaît, enfin voilà quoi. Pourquoi vous mettez autant d'énergie et autant de budget dans vos clips?
Eh ben, t'as mis le doigt sur une des deux raisons, ouais, qui fait que, le monde d'aujourd'hui, effectivement, demande ça. Je veux dire, si t'existes pas en termes d'image sur YouTube, tu n'existeras, enfin, en tout cas, plus difficilement si t'as juste des choses à écouter et non pas à voir. Donc ça, et d'autant plus que on avait avant cet album-là, Duka n'avait aucun clip. Donc on partait avec une grosse balle dans le pied, donc fallait qu'on rattrape un peu tout ça, voilà, et il y avait un gros truc à rattraper, et nous aussi.
Ouais, c'est rattrapé, hein.
Ouais, voilà, on a essayé de, avec nos petits moyens et nos connaissances, de faire ce qu'on a pu. D'ailleurs, merci beaucoup pour le compliment que tu nous as fait. C'est très très gratifiant. Et on s'est entouré de gens qu'on aime bien, qu'on connaît un peu aussi, donc c'était un processus très intéressant, en plus de ça, en plus de voilà du nouveau. On a appris plein de choses et c'était vraiment très 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 cool à faire.
Ok. Alors on va s'envoyer dans ces cas-là Spectator et on reviendra tout de suite après ça, on reviendra sur le morceau parce que justement ça fait partie des clips qui sont venus me remettre un petit peu en question, parce que initialement c'est pas le genre de truc que j'aime, l'acting, tout ça, la mise en scène et tout ça, mais en fait ici il y a une telle qualité, il y a une telle vision artistique qui est différente de ce qu'on peut avoir en temps normal que je voudrais qu'on revienne un petit peu dessus. Alors on s'envoie Spectator et on revient tout de suite après, c'est parti. By your own life, rise up! On est mal. Et de retour sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune 93.1 FM Paris. C'était donc Spectator du groupe Douka de la, sur l'album Rémanence. Alors je voudrais qu'on revienne un peu plus en détail sur ce clip qui pour moi avait un petit peu l'imagerie de Chute Libre de Joël Schumacher. Je trouvais qu'il y avait un petit côté comme ça. J'aurais aimé avoir un petit peu votre point de vue. Qu'est-ce que pour les gens qui l'ont pas vu et évidemment pour les spectateurs qui restent en audio, quel thème vous abordez et comment vous l'avez abordé à travers ce clip qui est bien une belle pièce et qui est pour moi presque à deux doigts du court métrage quoi vraiment. Donc c'est parti à vous. Let's go.
Alors effectivement c'est bien inspiré de ce film Chute Libre. Donc un film avec Michael Douglas, et en fait le film, enfin le clip, il est inspiré de la scène en fait du début où en gros on voit le personnage principal qui dans les embouteillages, en train de péter un plomb, puis il y a du bruit, et puis il y a les klaxons, et puis il y a un mec qui lui dit d'avancer, et en fait ça le gonfle, et il sort de sa voiture, il prend son attaché case, il claque la porte, et il se barre, et il laisse la bagnole au milieu des embouteillages, quoi.
Bon. Le rêve.
Le rêve, voilà, exactement. Et bah, pour poursuivre ce rêve, on a un peu imaginé la suite de cette scène, où on s'est dit qu'il pourrait y avoir... une société fictive, donc on voit dans le clip qui s'appelle Wreck and Watch, et où en gros tu rentres dans cette boîte pour acheter une prestation au choix. Soit tu payes pour recréer des scènes d'incivilité de la vie quotidienne, mais en ayant la possibilité de craquer pour de vrai, chose que t'as pas pu faire parce que t'es quelqu'un de bien élevé, puis tu veux pas aller en prison, puis tu casses pas la gueule aux gens pour des conneries, même si des fois t'aimerais bien. Soit tu payes pour regarder des gens voilà, faire acte de violence, etc. Voilà. Et le clip, il montre ça. Donc un mec qui termine sa journée, qui rentre dans cette boîte, la Wreck and Watch, et qui arrive avec 3 tickets de « moi je veux casser la gueule à des gens » et voilà, il demande à recréer 3 choses qu'il vit dans son quotidien et pour lesquelles il prend tout le temps sur lui. Et donc la première, c'est voilà, les gens qui font du bruit en mangeant, que t'as envie de leur exploser la tête dans l'assiette, mais que tu le fais pas parce que t'es bien élevé. Et ensuite, il y a des gens qui te doublent dans une file d'attente. Et la troisième chose qu'on a illustrée, c'était quand tu travailles dans un open space et que t'es blindé de boulot et que ton patron y vient et qu'il t'en donne encore plus, et que dans le même open space, il y a un mec qui se branle la nouille et qui lui finit toujours par s'en sortir en tant que tir au flanc, quoi. Et donc il casse la gueule un peu à tous ces gens parce qu'il a payé pour ça, et il se fait emporter par toute cette histoire, et il finit par finalement casser la gueule à tout le monde et même au présentateur de ce show, etc. Avant de récupérer le chronomètre du présentateur qui lui alloue du temps de violence en regardant les spectateurs eux-mêmes. Et en visant ainsi l'idée de remettre en question de finalement tout ce contenu de violence aussi qu'on consomme, est-ce que c'est sain, quoi, tu
vois. Ok, un peu à la recherche de la catharsis absolue.
Ouais, plus ou moins. On va dire le lien musical, c'est qu'en fait c'est le premier morceau qui a été composé après notre premier album. Et le premier album, c'était un concept album, donc, et on était c'était très restrictif du coup, parce qu'il fallait toujours rester dans le concept, il fallait toujours rester dans les cases du truc, c'était super intéressant à faire, et on en est très content, mais ça bloque un peu la créativité sur certaines choses, quoi. Donc une fois qu'on est sorti de ce premier cycle à l'époque, et qu'il a fallu recomposer, c'était un peu du coup le premier morceau qui est sorti en mode « Eh vas-y, je fais ce que je veux, tu vois !» Donc, c'est un peu libérateur dans l'esprit. Et c'est ce côté libérateur qu'on retrouve un peu dans l'imagerie.
On ressent bien quand même cette volonté de défouloir et
ouais,
de lâcher la bride un peu.
C'est ça, défouloir, ouais, tout à fait.
Ok, super. Alors on va revenir un petit peu sur la scène. On est un peu comme ça en dissonance cognitive, on va d'un côté et de l'autre pour bien dynamiser. Alors vous avez partagé la scène avec quand même pas mal de groupes, hein, que ça soit au SILAC ou au Dragfest et j'en passe. Et votre vision de la scène française typiquement, elle m'intéresse énormément. Ici sur dissonance cognitive, on essaye de soulever un peu les soucis qui gangrènent la scène, en même temps mettre en avant aussi les qualités qui la font exister. Du coup, quelle vision vous portez sur cette scène à travers ses plus grandes qualités et ses plus grands défauts? Selon vous, c'est quoi?
Déjà, elle a le mérite d'exister. Je dirais, il y a à boire et à manger, c'est clair. Mais je trouve qu'elle est quand même bien représentée. Il y a énormément d'offres, contrairement à ce que certains peuvent dire. Et il y en a qui se démarquent très bien. Bon, évidemment, tout le monde les connaît, hein, mais les Landmarks, les Resolve, les 1056, et j'en passe. Et on est très fiers d'être représentés, voilà, par ce genre de groupe, c'est vachement inspirant. Et je pense que ça contribue aussi à voilà, renforcer l'image un peu de la France aussi à l'international dans ce style-là, quoi, tu vois, la France n'est pas du tout connue, enfin réputée pour être un pays voilà, de rock, de métal, enfin même la musique en général, enfin c'est un écosystème musical très particulier chez nous, tu vois. Mais je trouve que de plus en plus il y a des groupes comme ça qui arrivent un peu à tirer leur épingle du jeu et moi je trouve ça très, très encourageant, très cool et il faut que ça continue dans ce sens-là quoi.
Ok, tu vas me faire un parallèle parfait avec la question d'après, ça va être impeccable ça.
Magnifique.
Impeccable. Ok, justement, tu vois, je disais, lors de la diffusion de votre morceau spectateur sur la playlist de Dissoco, je disais que vous étiez un groupe qui au final avait rien à faire en France, dans le bon sens du terme évidemment. Justement, avec ce que tu viens de me dire, qu'est-ce que ça provoque en vous, ce genre de phrase, quand vous entendez ça? De la part d'un média, bon, moi, je suis pas Rockard Magazine, bien sûr, mais je veux dire, de la part d'un média métal, qu'est-ce que ça provoque? Est-ce que c'est dans vos plans de vous exporter à l'étranger? Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, ça pique au vif, tu te dis, ouais, c'est vrai que la scène française, elle pue la merde. Ou est-ce qu'à côté, tu te dis, non, en vrai, un peu de chauvinisme sur les bords, on défend les frontières, on défend la French touch, comme on dit?
Bah déjà merci encore une fois pour ce nouveau compliment. Bah évidemment si demain on nous propose d'aller tourner à l'étranger, bah bien sûr qu'on ira. Mais c'est pas par forcément par j'allais dire par dégoût, mais par manque d'offres en France. On a quand même, je pense, des très belles salles, des très bons festivals, des gens qui se bougent quand même bien le cul pour qu'il y ait tout ça qui puisse vivre. Mais dans une logique à plus long terme, bah évidemment, tout groupe, je pense, rêve de passer le step au-dessus, même si on a encore beaucoup de choses à prouver, nous, en France. Voilà, on pète pas non plus haut que notre cul, mais si tu me dis que dans 5 ans, on peut aller tourner régulièrement, ne serait-ce qu'en Europe, moi je signe direct. Hein.
Ok, et si je vous dis dans 5 jours?
Dans 5 jours, nous on attend que ça, hein. Mais okay. Nous on veut s'exporter bien évidemment. Après c'est pas toujours aussi facile que ça. Il y a la scène française, elle est super cool, mais la situation, je dirais un peu post-Covid, elle fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'offres de concerts, de festivals, de choses qui se sont repoussées.
Clairement c'est saturé, la scène est saturée. D'accord.
Et c'est devenu hyper compliqué de se produire pour, je trouve, un groupe, enfin c'est notre expérience en tout cas, mais pour un groupe de notre taille où on a fait des scènes sympas, on a fait le Silac, on a fait avec des Corpiclani, Ginger, etc. Wow. On a fait du Lions Metal en Rhône-Alpes avec Flesh God Apocalypse, on a ouvert Hypnose, comme il disait Max avant, on est loin d'être un groupe international, on pète jamais plus haut que notre cul, etc. Mais donc forcément on aspire toujours à faire un peu mieux, et ce un peu mieux, l'offre est tellement grande aujourd'hui et il y a tellement de groupes de notre taille qui veulent se produire, et puis forcément les affiches elles sont pas extensibles, donc que c'est devenu hyper compliqué de se placer. Donc si on peut le faire à l'étranger, c'est cool. On aimerait déjà arriver à le faire plus en France. Il y a des endroits en France où on n'est jamais allé jouer encore de notre vie, donc mais pour ça il faut être entouré et avoir idéalement le chantier c'est trouver le booker qui va bien quoi, tu vois, pour ça, donc
ce qui est pas évident, hein, on va pas se le cacher.
Non mais on y travaille, donc mais oui évidemment c'est la suite pour nous, ce qu'on espère c'est ça quoi.
Ok, alors on va attaquer l'instant sel, parce que vous m'avez fait un petit parallèle avant d'attaquer la partie un peu plus technique de la musique que vous proposez. Tu vois, tout à l'heure, il y a quelques instants, on disait que la scène était un peu saturée. Je vais y aller direct. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'hypocrisie en France qui fait qu'on pose des groupes qui n'ont pas les épaules pour être sur scène? Attention, c'est très méchant ce que je vais dire. Malheureusement, pour moi, c'est une vérité. C'est ma vérité, c'est pas la vérité. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un problème? C'est quelque chose typiquement qu'il n'y a pas dans la culture américaine, dans la culture anglo-saxonne. C'est-à-dire que Seul entre guillemets, évidemment, hein, faut pas péter les plombs, mais seule l'excellence peut se permettre de se promouvoir, de s'accomplir sur scène. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec ça en France? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie qui dit vas-y, prends la date parce que t'es le premier arrivé, et il n'y a pas à la fin une espèce de jugement profondément technique, profondément qualitatif, qui dit non les gars, vous avez pas les épaules, pas vous faites de la musique de la merde, ça n'a rien à voir, on n'a pas le droit de dire ça, on le sait en tant que musicien et média, c'est des choses qui se disent pas, mais plutôt le côté vous n'avez pas encore les épaules. Est-ce que s'il n'y a pas un problème comme ça qui fait que ça a saturé la scène, et aujourd'hui on a une pléthore de propositions, on a des tonnes de groupes, et dans ces tonnes de groupes, bah, on a quand même une partie des groupes qui n'ont pas les épaules et qui n'ont pas entre guillemets pas à se promouvoir et ne pas à se produire sur scène par rapport à d'autres.
Ouais, c'est compliqué. Il reste
de Joker, oubliez pas.
Non, mais je vais pas de Joker là-dessus parce que c'est intéressant. Je pense que en fait, ça dépend, je dirais peut-être quelle scène. Parce qu'on a tous le droit de commencer, et on a tous le droit d'être pas bon, pas carré, que de tout pas fait. Jouer au clic, de commencer tout court en fait, voilà. Et je trouve ça un peu réducteur de dire ces groupes-là, ils ont pas à être sur scène parce qu'ils piquent la place aux gens qui eux sont prêts pour être sur scène. Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut. Si tu veux faire tes armes à un moment donné, tu vois, nous à notre échelle, c'est ça. On nous dit, vous voulez jouer là? Ouais, mais il faut remplir des salles. Bah, mais pour remplir des salles, il faut faire des concerts, mais pour faire des concerts, il faut remplir des salles. Et à un moment, il faut me donner ma chance aussi, tu vois.
Le fameux, pour avoir ton permis, il faut avoir du travail, et pour avoir du travail, il faut avoir ton permis.
Ouais, exactement. Donc ça, c'est pas politiquement correct que je dis ça, c'est vraiment, je le pense. Après, est-ce que pour aller plus loin et pour rester dans le thème du sel, est-ce qu'il y a des groupes qui sont là et que franchement, ils phagocytent le bordel? Oui. c'est subjectif à fond, hein. c'est les groupes que moi j'aurai en tête, ce sera peut-être pas les groupes que toi t'as en tête, c'est pas les groupes que Max il aura en tête. Et
je mets 200 balles sur la table qu'on parle des mêmes groupes.
Peut-être, mais en tout cas voilà, on sait comment ça fonctionne, et puis des fois voilà, le réseau compte beaucoup, c'est un secret pour personne, je pense que je vais offenser personne en disant ça. Donc à un moment donné, t'as des gens, ils sont à des endroits, à des instants T sur certaines scènes où tu peux te poser la question, et puis en fouillant un petit peu, voilà. Après, est-ce que ça leur enlève le mérite à partir du moment où, le jour où ils sont sur scène, ils font le job? Et ben voilà, après charge à eux de prouver que on a eu raison de leur faire confiance, malgré le fait qu'il y en a d'autres à côté qui ont peut-être plus travaillé, qui ont une meilleure qualité de production et qui auraient peut-être même plus rempli d'ailleurs, tu vois, sur le papier. Donc moi je pense, voilà, il faut donner la chance, mais après oui, faut voir les scènes sur lesquelles on place les groupes émergents, et pour les groupes vraiment débutants entre guillemets, y a plein de salles qui existent pour ça. Il y a le Dordil, il y a plein de formats qui font que tu peux te produire là où tu es censé te produire à ta taille, quoi. Voilà, je vois un peu comme ça.
Ok, si je devais résumer un peu trivialement, tout le monde a sa place, mais tout le monde a sa chance, mais il y a une place pour chacun.
Ouais, ça c'est bien résumé. Ouais. Faut gagner sa place. Je trouve qu'il y a un moment donné, voilà, il faut faire ses preuves. Bien en fait, c'est juste ça. Voilà, c'est tout.
Écoute, je vous remercie. Attaquons cette fois-ci la partie technique du groupe. Comment ça se passe niveau composition dans le groupe? Qui fait quoi?
Alors niveau compo, on n'est pas un groupe du genre à jammer, à se retrouver au local et puis buffer et voir ce qu'il en sort. Peut-être que le style veut pas trop ça non plus. Donc généralement on a tous de quoi un peu composer à la maison. Donc il y a majoritairement Du, qui est avec moi chanteur, et Fabien, notre deuxième guitariste, qui eux sont les deux gros piliers, on va dire, de la composition. Et puis après, avec Jérôme, Max et moi, généralement on arrive plus pour ce qui est la partie arrangement. Voilà, une fois que les gros blocs sont déjà posés, on va, moi notamment sur les idées de batterie, j'ai avoir forcément une vision un peu différente que ce qu'eux peuvent proposer quand ils composent.
Surtout s'ils composent à base de 5 cymbales en même temps et 12 voilà, tonnes, hein, on connaît
je
ça.
Je m'appelle pas Shiva, j'ai pas 12 bras, donc voilà, des fois il faut remettre un peu les choses à leur place.
Par différente, il voulait dire meilleur.
On l'a senti.
Voilà. Et donc du coup, voilà, ça part très souvent d'une idée d'une personne. Et puis on finit généralement le produit que vous entendez sur la galette, c'est toujours il y a une part de tout le monde en général dans le produit fini quoi. Ouais. Après là sur les nouvelles idées qu'on est en train de produire, moi je m'y mets un peu plus, je fais un peu de guitare aussi, voilà on essaye de on tente des choses, voilà on va voir ce que ça va donner.
Ok, sur le genre, sur les mesures composées que vous proposez, comme dans Spectator par exemple, les mesures composées où vaut mieux arrêter de compter parce que c'est n'importe quoi, tellement c'est du délire technique et c'est absolument fantastique. Est-ce qu'il y a des débats entre vous avec des votes sur le niveau de difficulté ou un nombre d'essais avant de rage quit, tu vois? Comment ça se passe ce genre de parties qui sont dans la technique, encore plus technique, vous voyez? Est-ce que c'est toi qui vas les amener? Est-ce que c'est les guitaristes qui vont amener ces parties-là? Puisque c'est vrai que le cœur de ces parties-là, c'est souvent ça repose beaucoup sur le batteur, ses capacités techniques et pas que techniques mais même aussi cérébrales, parce qu'il faut être capable d'être indépendant, de dissocier les deux bras, les deux jambes, voilà, pour entrer un peu dans la partie technique pour les spectateurs. Mm-hmm. Comment ça se passe au niveau des mesures composées où on booste un peu plus la difficulté?
Eh ben figure-toi que c'est pas moi le plus piné en termes de mesures composées. Il a une fâcheuse habitude, c'est de rajouter un temps à la fin d'un cycle. Voilà, t'aimes bien le 4-4 d'habitude, tu vois, que ce soit tout stable, voilà.
Le temps qui te fait saigner du nez,
ouais,
normalement,
ou un demi-temps encore pire, là t'es près de la névrose, c'est...
Je veux un droit de réponse.
Tu as le droit, vas-y, profite-en.
En fait, moi, j'ai pas un cursus musical de taré en mode, voilà, tu vois, je suis pas musicien de formation de base, on va dire. En fait, moi, je compose à l'oreille et en midi, beaucoup. Et en fait, à partir du moment où moi, ça sonne bien comme ça, à l'oreille, je vais faire juste ça, tu vois, si je trouve ça cool, je le fais. Et à la fin, je regarde ce que ça fait, tu vois, c'est « Ah bah, pas de chance, c'est du 7-4 !» Globalement, on va pas se mentir, okay. C'est souvent comme ça que ça se passe, pour la plupart des choses. Après, des fois, oui, il va y avoir, mais c'est plus sur le premier album, au final, sur les Tchernobyl, les machins, où on va avoir un truc en 4-4, et là, il y a peut-être des fois où il y a une volonté de complexifier, tu vois, de dire « Est-ce qu'on se rajouterait pas une petite mesure là pour... » c'est rigolo, tu vois. Voilà, en gros, quoi. Mais.
Ok.
Mais généralement.
Vas-y, excuse-moi, je veux pas te couper.
Non, mais voilà, mais tout ça pour dire que généralement, c'est pas. Ah, j'imagine bien un super groove ternaire, tu vois, là, avec une vibe de 7-4 à la ride. Non, c'est pas ça, en vrai, c'est pas ça. Ça serait prétentieux. C'est, voilà, juste à l'oreille, si ça sonne cool, c'est cool. Mais cool, des fois, bah, c'est pas du 4-4 pour moi, quand je le fais.
C'est vrai, typiquement, je crois, Monet de Pink Floyd, qui n'est pas un 4-4, qui est quand même un truc qui est hyper connu, qui a fait son petit buzz à l'époque et qui est pas du tout un 4-4, comme quoi on peut éduquer les oreilles des gens à un autre format que le radio 3 minutes 4-4 pop style. Hein.
Carrément. Tant que c'est agréable à écouter.
Ouais, c'est ça, tant que c'est agréable à écouter, tant qu'il y a un côté naturel, même si en tant que musicien, tu peux peut-être compter ou être un peu dans la souffrance d'un point de vue mathématique, mais du moment que l'auditeur, il a une sensation naturelle, quelque chose qui est fluide, quelque chose qui glisse tout seul, je pense que c'est pas un problème.
Ouais, bien sûr.
Du coup, ouais, vous avez répondu à la question. Ces éléments techniques, c'est pas quelque chose que vous recherchez profondément, ça peut arriver, mais c'est plutôt quelque chose d'assez instinctif, quoi. Au final, vous entendez un truc et si c'est technique, c'est technique, nique.
Ouais, non, voilà, enfin, on cherche pas la technicité pour la technicité, quoi. C'est, ça empêche pas que certains d'entre nous, on peut avoir le bagage pour justement proposer ces trucs-là, mais c'est pas parce qu'on l'a que qu'on va le proposer, quoi. Tu vois, c'est il faut que ça reste musical, que ça serve le propos. Donc si il faut que ce soit un 4-4 beat tempo qui dure 4 minutes, format radio tout bien propre comme on veut, et ce sera ça, voilà. Si par contre quelqu'un arrive avec une idée en tête et que c'est piné dans tous les sens et qu'on on ira, quoi. On se refuse rien, tu vois. C'est pas, on n'a pas de standard de composition ou de tiens, sur cet album il va falloir qu'on ait un morceau comme ça, puis un morceau comme ça. Non, ça se fait au fur et à mesure, quoi. Voilà, ça se dessine en le faisant.
Ok. Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des chants des possibles que vous vous interdisez? Ouais, typiquement, on va parler du refrain en chant clair, typé metalcore par exemple, ou post-hardcore.
On en a parlé déjà.
On s'est battu.
Non, même pas. En plus, parce qu'on aime tous ça, tu vois. On écoute tous plein de genres de musique différents, où il y en a où ça braille pas du tout. Donc c'est aussi pour la personne qui sera concernée, tu vois, c'est est-ce qu'elle est à l'aise avec ça, tu vois, ça peut être un truc de batterie, hein, là je parle pour moi, tu vois. Autant j'adore écouter du métal extrême, tu vois, parce que je trouve ça hyper impressionnant, autant à jouer, moi je me chie dessus parce qu'il y a 12 000 notes à la seconde, je trouve pas ça très plaisant, tu vois. C'est faut que chacun soit à l'aise avec ça, et puis que ça serve aussi le propos de ce qu'on a proposé avant, tu vois, qu'on pas faire des trop gros sauts, tu vois, entre ce qu'on fait actuellement et je sais pas, faire de la K-pop demain, quoi, tu vois, c'est
ouais.
Ah oui, bon, ah, ouais. Là je voilà, je soulève encore un truc
là au fond, là.
Bah oui, non, bon, je donne le micro parce que
non, il y a eu K-pop et il est parti en couille instant là.
Ah non, parce que moi je suis un grand amateur, mais non, c'est vrai en plus. Mais non, mais le chant, tu vois, typiquement le chant clair, en vrai, il y en a pas, mais c'est aussi parce que tu vois tellement de groupes qui font ça de manière produite, et super, ça sonne trop bien quand c'est produit, mais c'est franchement, ça impressionne plus personne. Tu peux chanter juste en studio, c'est bon, on est en 2023, il y a pas de problème. Même si t'es une merde absolue en chant, tu peux devenir bon avec un ordinateur.
Ouais, mais tu parles d'autotune et d'éléments informatiques type EVST qui peuvent venir un petit peu rectifier le problème, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et puis voilà, les pitch correcteurs et tout ce qu'on veut, quoi. Donc bon, pas de souci. Moi, pas de souci avec ça. Mais par contre, il faut que ça suive en live. Moi, ouais, c'est juste ça qu'on s'est toujours dit. Nous, on se veut être un groupe de live. Et on a travaillé énormément de choses pour le live. Et si tu fais du chant clair, parfait, très bien. On n'a pas de souci avec ça. Mais il faut qu'il soit, genre, nickel en live. Sinon, c'est pas la peine, on le fait pas. Ça va juste être du metalcore éco plus, comme 95% de tout ce qu'on entend aujourd'hui et qui suit pas.
Ok. Hein? Est-ce que en live un pitch corrector c'est tricher pour toi?
Ah oui.
En live, hein, j'entends. Tout à l'heure tu disais que t'avais pas de problème avec ça en studio, mais en live.
En fait, je trouve qu'il faut que ça serve le propos. Si okay. Tu veux. Okay. C'est que t'as des. Tu vois, Igor par exemple, ils ont énormément de trucs, ils ont énormément d'effets, tu vois, à la voix qui vont. Alors bon, c'est pas du pitch correcteur du coup pour le coup, mais ils ont des effets qui sont impossibles à faire avec ta gorge, ta voix naturelle, mais qui vont être cutés par un ordinateur ou ce genre de truc. Là, il y a de l'effet sur la voix, tu peux pas le faire en vrai, mais je sais pas. Ça, dans Igor, ça sert le propos, tu vois, je trouve. Après, mettre de l'autotune. Non, je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, de notre côté, je sais pas, ça me va pas. Moi, je bof.
Ouais, non, moi, je te rejoins. Enfin, tant que ça reste dans une logique de production et de. Et que ça pallie pas à un manque de technique, tu vois, moi, ça me dérange pas. C'est ce qu'il voulait dire, oui, tu vois. Ouais. Mais si, par contre, si c'est juste le mec, c'est une brêle et qu'il sait pas chanter de notes, voilà. Là, oui, là, c'est problématique. Ouais.
Allez, toi, en tant que batteur, est-ce que le trig, on va essayer de trouver un parallèle à peu près entre le pitch corrector au chant et à la batterie. Est-ce que le trig, c'est tricher pour toi?
Non, pas du tout. Non, c'est pareil. Je pense que ça sert aussi le propos. Okay. Bon, à la base, je suis pas spécialement pour, d'autant que bon, j'ai tendance à attaquer la peau assez fort, mais c'est juste pour dans une logique de voilà que. Que tout soit, c'est pas un manque technique, si tu veux, voilà, c'est pour que vraiment toutes les, il y a certains tempos où physiquement, c'est pas possible d'attaquer ta peau et à 120 dB, tu vois, quand tu joues à 200 à la noire, quoi, tu vois. Et ça, je trouve d'ailleurs, enfin, des batteurs qui sont aussi bons soient-ils à la double, il y a un espèce de débat, tu vois. Justement, enfin, tous ces batteurs qui disent ouais, si tu joues au trig, t'es un peu un nulos, quoi, tu vois. Mais il y a certains de ces batteurs là, enfin, ok, ils jouent les parties en live, mais je trouve que devant, quand t'es en face, ça rend pas, quoi, tu vois, t'as pas l'attaque, le piquant d'un trig, et je trouve que ça dessert complètement le propos, quoi. Alors que ça, on mériterait d'avoir le trig qui te décolle la rectine à chaque coup, tu vois. Et moi, je trouve ça dommage. Donc, nous, on l'utilise comme ça, quoi. C'est pas pour rattraper quoi que ce soit. Voilà, c'est clairement un souci de production, quoi, derrière.
Ok, très intéressant ce que tu dis, je te remercie. Très très intéressant. On va se faire notre deuxième pause musicale avec le morceau éponyme de l'album, donc Rémanence, et on revient tout de suite pour attaquer un peu plus en profondeur l'aspect humain qui vous caractérise et l'importance de la musique dans votre vie. On se retrouve tout de suite après Rémanence, c'est parti.
On est mal.
Et de retour sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune 93.1 FM Paris, toujours en compagnie de Douka. C'était donc le morceau éponyme Rémanence. Donc, est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus de ce morceau avant qu'on attaque justement, comme je disais avant cette pause, la partie un peu plus personnelle au niveau de la musique. Parlez-moi un peu du contexte de cette musique, qu'est-ce qu'elle exprime, qu'est-ce que comment.
Alors, ce morceau, c'était... Enfin, tu me diras juste si je me trompe, mais c'était peut-être sur le sens, peut-être celui le plus abordable, le plus facile. Ouais. 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 Bah, je t'essaie d'en parler dessus, tu le feras mieux. Quoi.
Deuxième joker, hein. Moi je prends ça pour un joker. Hein. Ouais, je préviens.
Ce morceau, alors c'est, bon, donc c'est clairement le morceau le plus accessible de toute notre discographie, on va dire, voilà. Non, voilà, c'est le morceau le plus friendly, on va dire, à l'écoute, c'est plus mélodique, etc., etc. Et en fait, on avait envie de véhiculer sur ce morceau-là une vibe un peu plus positive. En fait, on voulait surtout parler d'énergie positive. Et ça c'était le premier point et aussi adresser le sujet de tout ce qui tourne autour des gens qui ne vivent pas, tu vois, une vie considérée comme conventionnelle aujourd'hui, tu vois, genre bah, justement les musiciens, les danseurs, les artistes, les intermittents, etc. Et tous les gens qui te disent non mais attends, c'est pas... c'est pas un mode de vie stable, tu vois, tout ce genre de choses.
Oui, et, je vois bien.
Voilà, et malgré tout, bah, tu te lèves le matin et toi t'es là et tu prends ton truc et t'as envie qu'on te supporte en fait là-dedans et il faut trouver bon an mal an un moyen de se nourrir en fait de ce qui arrive en face de toi, que ce soit positif ou négatif. Et la musique, c'est ça, c'est Rémanence, c'est un morceau qui parle le plus de rester positif, quoi, en fait, si tu veux, au-delà des circonstances.
Ok, c'est la positive attitude de Laurie, mais façon Douka, quoi.
Ouais, un petit peu. Un petit peu, en vrai, si tu veux, on avait parlé pour le premier album, qu'on nous disait que c'était un concept album et que le deuxième est beaucoup plus hétérogène. Et on voulait absolument faire totalement l'inverse, finalement, dans ce souci de créativité dont je parlais plus tôt. Et chaque morceau raconte une histoire différente. Il n'y a pas de lien entre chacun des morceaux. On s'est retrouvé avec les morceaux, on s'est dit, putain, ils sont cool, ils n'ont pas toujours grand chose à voir les uns avec les autres, mais fait chier. On a envie de les raconter, ces morceaux, quoi. Et celui-ci s'est retrouvé comme voilà, vachement plus positif. Alors c'est Fabien qui l'a composé, ce morceau-là principalement, et il y avait cette petite mélodie là qui reste en tête et tout, ce riff un peu plus énervé qui véhicule, je trouve, à l'écoute vachement plus de positif. Et quand on est sur scène même, d'ailleurs, ça se ressent, les gens, la vibe, l'énergie, les retours sont absolument pas du tout les mêmes, c'est plus metalcore, hein, au final, que ce qu'on propose à côté. C'était un truc plus cool, plus accrocheur, plus dynamique, plus mélodique, plus libérateur, quoi,
en fait. Ok, plus entertainment. Ouais. Quel temps vous consacrez à la musique de manière générale? On va dire hebdomadairement, on va dire. Ça, c'est pour histoire d'avoir un petit jalon, quoi.
Eh ben, je pense que tu auras 5 réponses différentes si on était tous là.
Ouais.
En fait, il y en a certains de nous qui sont déjà professionnellement plus ou moins dans la musique. On a des intermittents, il y en a qui sont ou qui ont été profs. Donc, le fait est que, bah, voilà, par défaut, ils passent beaucoup de temps à faire de la musique. Et après, bah, pour ceux qui ont des jobs plus conventionnels, on va dire, à côté, et ben, faut jongler, voilà, le temps libre avec ça. Pour le coup, moi, je suis intermittent, enfin, je suis en train de le devenir. Et donc, c'est un peu, ouais, bon, j'en fais pas tous les jours, mais très souvent. Et puis, bah, du coup, quand je suis pas en train de bosser, je peux consacrer du temps à ma pratique de mon instrument, au projet, Douka aussi, rien faire aussi parce que c'est bien. Mais il y a toujours de la musique, au moins une grosse partie de la journée, quoi, tous les jours, quoi.
Ok.
Pour ma part.
Ok, ok. Julien, combien de temps à peu près ? Hebdomadaire.
Hebdomadaire, franchement, au moins 5 à 6 heures par jour, fois 7, 30. Moi, je suis un salarié de la musique, c'est 35 heures par semaine. à peu près, j'en sais rien. C'est sûrement plus. C'est tout le temps dans ma tête d'une manière ou d'une autre, en fait. Mais à produire ou à réfléchir activement ou proactivement, de près ou de loin, à la musique et ce qu'on fait, ouais. C'est très énormément dans ma tête.
Ok. Avant de faire le fameux tour des réseaux sociaux et de vous poser la dernière question, j'aimerais avoir une réponse à la question « Quelle est l'importance de la musique dans votre vie ?» Mais de manière succincte, relativement court, 2-3 mots. C'est quoi ? Quelle importance elle a dans votre vie ? Ah, t'as un peu répondu, Julien, mais pour ce qui est de Max ?
Moi, c'est tout. Voilà.
Tout. Parfait.
Ouais... Je sais pas si c'est tout, mais une grosse partie. Enfin, non, ça fait plus que 3 mots, putain, fait chier.
La troisième joker, c'est bon, c'est fini.
Non, mais ouais, voilà. Enfin, moi, pareil, j'ai commencé très petit. Enfin, ça m'a toujours accompagné. J'en ai toujours fait. Enfin, que ce soit à la maison quand j'étais petit, il y avait toujours un truc qui traînait sur les vinyles, tout ça. Et puis, après, moi, j'ai continué. Ça m'a jamais quitté. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est mon métier, donc voilà, je suis plus heureux du monde, quoi.
Ah, voilà, joint l'utile à l'agréable. Autant que